Eh bien, sinon, on va accueillir le docteur Olivier de la Doucette à nouveau, et cette fois-ci pour comprendre un petit peu ce qui se passe en matière de prévention. Est-ce qu'on peut prévenir la maladie d'Alzheimer ? Je vous laisse la parole.
Alors, je pense que l'intervention de Rémy Genton va vous permettre de comprendre un peu mieux de quelle manière nous sommes en possibilité de prévenir la maladie d'Alzheimer. Ce qui est important, c'est que vous ayez en tête déjà un petit peu la situation actuelle. Comme je vous le disais en préambule, 225 000 nouveaux cas, beaucoup de gens concernés en France, parce qu'en réalité il y a 1 million de malades, mais si on tient compte de toutes les personnes concernées directement ou indirectement, c'est plutôt 3 millions de victimes. Et on voit que, eh bien, il y a zéro traitement. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, et ça, c'est intéressant à entendre, c'est que à H constant, on a moins de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que toutes les personnes aujourd'hui vivant à Strasbourg, qui ont 80 ans par exemple, ont moins de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer que leurs parents au même âge. C'est ce qu'on appelle la prévalence. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que le nombre de malades croît ? Parce que le principal facteur de risque de cette pathologie, on l'a voir tout à l'heure, c'est l'âge. Or, nous avons le privilège, et j'insiste là-dessus, dans nos sociétés développées, de vieillir de plus en plus longtemps. Si on vieillit de plus en plus longtemps, c'est parce qu'on se maintient en santé de plus en plus longtemps. On n'est pas tous amenés à avoir la maladie d'Alzheimer en fin de vie, même si ça touche beaucoup de monde. Et donc, le nombre absolu de gens susceptibles d'avoir la maladie d'Alzheimer croît décennie après décennie, même si à âge constant, le risque diminue. L'autre bonne nouvelle, c'est que si on retarde de 5 ans l'apparition de cette pathologie, eh bien, on divise par 2 le nombre de patients. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui touche plutôt les gens en fin de vie, même si on a un petit nombre de malades jeunes, petit nombre relatif, puisque ça représente 2 à 3% de tous les malades, mais en nombre absolu, c'est quand même beaucoup de personnes, puisqu'en France, ça représente 30 000 individus. Mais comme ça touche les gens en fin de vie, eh bien, si on retarde cette maladie, eh bien, on peut décéder d'autre chose. Et de cette manière, eh bien, on évite la maladie d'Alzheimer. Alors, la prévention, eh bien, pour comprendre un petit peu la prévention, il faut avoir déjà une idée, eh bien, de la manière dont la maladie d'Alzheimer se développe. On a à peu près 5% des cas d'Alzheimer qui sont 1 à 5% qui sont dits d'origine génétique. Ce sont des familles où, à chaque génération, vous avez un nombre important d'individus qui sont touchés. On a identifié un certain nombre de gènes, d'autres, nous ne les connaissons pas encore, mais on va les identifier, qui sont des gènes déterminants pour cette pathologie. Mais la grande majorité, l'écrasante majorité des patients, eh bien, sont dits des patients à forme sporadique, où les facteurs génétiques interviennent probablement, mais pas de manière prépondérante. Donc, ce qui est important, ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu comment fonctionne la prévention. On a coutume de distinguer deux types de prévention. Et pour vous expliquer ça, je vais vous parler d'une maladie dont on entend parler en boucle à longueur de temps, qui est Covid. La prévention primaire de Covid, eh bien, ce sont les mesures barrières, c'est la vaccination. C'est ce qui nous empêche d'attraper Covid. La prévention secondaire de Covid, c'est quand on a Covid, eh bien, on prend des antibiotiques, on va voir un toubib, on fait en sorte de ne pas avoir d'insuffisance respiratoire, de ne pas avoir les symptômes qui nous conduisent à l'hôpital, voire en réanimation. Donc vous voyez, c'est deux types de prévention. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on a un problème. Le problème, c'est que on ne peut pas aujourd'hui réellement concevoir une prévention primaire efficace, car nous ne connaissons toujours pas la cause réelle de cette pathologie. Mis à part les formes familiales qui sont déterminées par des gènes identifiés, qui représentent heureusement une toute petite frange des malades d'Alzheimer, c'est moins d'1%, eh bien, la grande majorité des malades sont touchés par cette pathologie sans qu'on sache réellement pourquoi ils sont atteints. On voit dans les fratries, vous avez 5 enfants qui vont vivre entre 75 et 90 ans, par exemple, eh bien, il y en aura 1, 2 ou 3 atteints. Et pourquoi cela et pas d'autres, ça reste encore un peu un mystère. Donc, la prévention primaire dans le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est compliqué. On va peut-être à terme finir par comprendre un peu mieux, mais au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. En revanche, la prévention secondaire est-elle tout à fait possible ? Pourquoi ? Parce que, comme vous l'a signifié Rémi Genton tout à l'heure, eh bien, cette pathologie va rester sans signe clinique pendant 10 à 15 ans. Pendant 10 à 15 ans, vous allez accumuler dans le cerveau des protéines anormales et pendant toute cette durée, le cerveau va compenser. Il va essayer de réparer les dommages causés par ces protéines anormales. Au-delà d'un certain stade de lésion, le cerveau ne pourra plus compenser correctement et on verra apparaître les signes cliniques. La pathologie va réellement s'exprimer à ce moment-là. Troubles de la mémoire, troubles du comportement, etc. Tout ce qui aide le cerveau à compenser, à retarder l'apparition de ces symptômes cognitifs, sont des facteurs de prévention secondaire. Tout ce qui entrave le cerveau sont considérés comme des facteurs de risque. Dès lors que vous avez compris ça, vous allez voir que les choses sont beaucoup plus claires. Alors, donc, on voit qu'il y a deux façons d'envisager la maladie. Ou lorsque les premiers symptômes apparaissent, mais j'ai envie de dire que c'est déjà un petit peu tard, ou eh bien, à l'installation des lésions cérébrales, c'est ce dont je vous parle actuellement. Alors, avant toute chose, il est important qu'on comprenne les facteurs de risque que nous connaissons aujourd'hui comme identifiés. Il y a d'abord l'âge. Je vous le disais tout à l'heure, l'âge est le premier facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez sur ce graphique, c'est très très clair, plus on avance en âge, plus le risque augmente. On voit qu'à 90 ans, il est d'à peu près 30%. Une personne sur 3 à 90 ans est susceptible d'avoir la maladie d'Alzheimer. À 80 ans, on est plutôt autour de 15-20%. On peut retenir qu'à 90 ans, 70% des personnes n'ont pas la maladie d'Alzheimer. C'est pour vous dire que ne vous imaginez pas que dès lors que vous allez vieillir très longtemps, vous allez forcément vieillir en très mauvais état. On peut, heureusement, continuer à vivre longtemps en étant indemne de cette pathologie. Mais il est bon de savoir que l'âge est un facteur de risque majeur, ce qui explique pourquoi eh bien, le nombre de malades croît inexorablement année après année, puisque eh bien, dans nos sociétés développées, eh bien, c'est la population des plus âgés qui croît la plus vite. Alors, après, on a les gènes. C'est un autre risque que l'on connaît et dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur lequel il y a là aussi pas grand-chose à faire. L'âge, on n'y peut rien. Et les gènes, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment les manipuler. Donc, dès lors qu'on est porteur de certains gènes eh bien, susceptibles de développer la maladie, eh bien, on peut avoir un risque ou non d'attraper la maladie d'Alzheimer. Alors, on a identifié un certain nombre de gènes, dont celui de la polylipoprotéine, qui, lorsqu'il est présent, va augmenter le risque. Pas de manière inéluctable ni systématique, mais il augmente votre risque. On a enfin le gène qui détermine eh bien, les facteurs sexuels. On s'est rendu compte que entre un homme et une femme, au-delà de 80 ans, le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer eh bien, va se modifier de manière très sensible. On estime que au-delà de 80 ans, vous avez à peu près 3 femmes atteintes d'Alzheimer pour 2 hommes. Donc le risque est quand même plus important. Pour quelles raisons est-ce qu'il est plus important chez les femmes? Probablement pour des raisons à la fois génétiques, sous-tendues peut-être par les carences hormonales, qui sont plutôt le fait des femmes après la ménopause. On pense que les œstrogènes peut-être protègent les neurones. Et puis peut-être des facteurs plus culturels, on en parlera tout à l'heure, qui sont liés au niveau d'éducation des femmes. Les femmes aujourd'hui, qui ont 80 ans et plus, sont peut-être moins susceptibles d'avoir suivi une éducation poussée que les hommes de la même génération. On insistait moins sur les études à l'époque pour les femmes que pour les hommes. De ce fait, elles faisaient peut-être des métiers qui étaient moins intellectuels et elles étaient probablement moins stimulées. Peut-être que ça joue et que ça explique pourquoi eh bien, les femmes sont plus nombreuses à avoir la maladie d'Alzheimer au-delà de 80 ans. Ce qui est intéressant aussi et qui fait partie de la recherche aujourd'hui menée par de nombreuses équipes dans le monde, c'est d'essayer d'identifier des gènes protecteurs. On pense que dans ces formes dites sporadiques, qui touchent la grande majorité des malades d'Alzheimer, eh bien, vous avez des facteurs génétiques qui interviennent, mais qui sont plus des facteurs de prédisposition. Je vais vous donner un exemple qui est en dehors du champ de la maladie d'Alzheimer, le cancer du poumon. Eh bien, on a clairement identifié dans la population des gènes qui, lorsque vous êtes porteur de ce gène et que vous fumez, vous allez déclencher un cancer du poumon. Mais si vous êtes porteur de ce gène et que vous ne fumez pas, vous n'aurez pas de cancer du poumon. Donc on voit que là, on a un gène qui est un gène prédictif, dès lors qu'il est associé à autre chose, un autre facteur. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, il en est probablement de même. Le problème, c'est que ces gènes, on ne les connaît pas encore très bien et on a du mal encore à identifier tous ces facteurs connexes qui, en intervenant, vont finir par aboutir ou bien à la protection ou bien au contraire au déclenchement de cette pathologie. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de facteurs de risque sur lesquels on avait peu d'influence, hélas. Mais maintenant, il est bon de savoir qu'il existe d'autres facteurs sur lesquels il est possible d'avoir un impact, qui sont liés essentiellement à nos comportements. Tout au long de notre vie, en fonction de nos comportements, nous allons être capables, eh bien, d'agir de manière positive sur cette pathologie, peut-être infraclinique, voire même au-delà, lorsque la maladie est installée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces facteurs protecteurs, eh bien, vont pouvoir se développer tout au long de la vie. Alors, là, je vous ai proposé justement 3 diapositives qui montrent que très tôt, on peut prévenir la maladie d'Alzheimer. On va voir ensuite chez l'adulte jeune, mûr, et ensuite chez la personne plus âgée. Mais moi, j'ai souvent, pour un petit peu frapper l'imagination de mon auditoire, je dis que la maladie d'Alzheimer se prévient en CP. En CP où un enfant apprend à lire et à écrire, entre le gamin qui saura lire et écrire correctement parce qu'il sera bien encadré, bien stimulé, et qui lui permettra par la suite de faire de bonnes études et d'avoir ensuite un métier très stimulant, très créatif, qui intellectuellement va mobiliser son réseau neuronal, et un gamin qui sera à la peine et qui n'y arrivera pas, qui fera des études poussives et qui fera ensuite un métier peut-être moins valorisant, moins stimulant, 70 ans plus tard, ils vont peut-être présenter des lésions dans leur cerveau au même âge, mais le premier, celui qui aura une réserve cognitive, c'est-à-dire une réserve liée à cette stimulation intellectuelle permanente, va avoir une période infraclinique qui pourra durer, on va dire, 15 à 20 ans, tandis que celui qui n'aura pas à développer ses réserves cognitives va peut-être n'avoir que 10 ans de répit. Vous voyez qu'on peut gagner peut-être 5-10 ans tout simplement en stimulant son cerveau tout au long de sa vie. La curiosité intellectuelle, le goût de l'effort intellectuel, ça prend très tôt, très précocement. Mais il faut l'entretenir tout au long de sa vie. Le fait que vous soyez venu cet après-midi écouter les intervenants est plutôt bon signe. Ça montre que vous avez cette curiosité, cette envie d'apprendre, et peut-être qu'en étant ici, vous êtes aussi dans une attitude préventive puisque vous développez votre réserve cognitive, du moins vous l'entretenez. Donc, on voit que dès l'enfance, dès l'adolescence, on peut mettre en place des facteurs protecteurs qui vont tourner beaucoup autour de cette réserve cognitive. Par la suite, il y a d'autres comportements au moment de la vie adulte, entre 20 et 60 ans, qui vont contribuer également à protéger le cerveau, nous protéger contre l'apparition de cette maladie d'Alzheimer. On en a identifié un certain nombre là, vous voyez. Beaucoup sont liés à l'entretien du réseau vasculaire. Notre cerveau est parcouru par des millions de vaisseaux absolument minuscules qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui apportent à cet organe prodigieux quantité de substances indispensables, à commencer par l'oxygène et le glucose. Vous savez, hélas, que si on arrête de respirer plus de 4 minutes, on meurt, sauf si on a un peu d'entraînement. Ça montre à quel point notre cerveau a un besoin absolument indispensable d'oxygène. Il ne peut pas se passer d'oxygène, il a besoin de ce carburant en permanence. Oxygène qui est apporté par ce réseau vasculaire. Pour le glucose, c'est un peu la même chose. On a tous fait l'expérience d'une matinée où on était un peu pressé, on n'a pas eu le temps de prendre un petit déjeuner. Et puis, en fin de matinée, on est bousculé et tout d'un coup, on se sent un peu mal, des vertiges, et on peut tomber dans les pommes. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une hypoglycémie. Qu'est-ce que c'est l'hypoglycémie ? C'est une baisse du taux de sucre dans le sang telle que le cerveau se retrouve sans ce carburant indispensable. Et il disjoncte. Un autre exemple qui montre à quel point donc le sucre est indispensable. Mais ça, ce sont deux métabolites, deux substances qui sont évidemment à la base, mais il y en a des millions d'autres qui passent par le sang et qui sont véhiculés grâce à ce réseau vasculaire indispensable. Tout ce qui entretient le réseau vasculaire est un facteur de risque, est un facteur de protecteur, et tout ce qui l'entrave, qui l'abîme, modifie sa structure est un facteur dit de risque. Donc on voit très bien que les facteurs de risque, c'est la sédentarité, le diabète, l'hypertension artérielle, tout ça altère le réseau vasculaire, l'hypercholestérolémie, le tabagisme. On a d'autres facteurs qui sont des facteurs de risque, qui sont la dépression et le stress, dès lors qu'ils ne sont pas soignés. Ensuite, il y a les traumas crâniens. Il faut éviter de faire de la boxe, mais je ne pense pas que ce soit votre problème. Et puis, les troubles du sommeil. Facteur protecteur, c'est un peu le contraire. On a vu tout ce qui développe le réseau vasculaire, l'entretien. Et puis, évidemment, toutes les activités sociales et intellectuelles. Et pour finir, donc, après 60 ans, eh bien, on retrouve un peu ces mêmes facteurs qui sont encore plus importants avec d'autres qui s'associent. Donc les bourreaux du cœur, c'est une métaphore pour reprendre l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, le tabagisme, etc., la sédentarité. Après, on a la surdité. Ça, c'est quelque chose qui touche plutôt eh bien, l'adulte de plus de 60 ans, et en particulier les hommes. Alors, je vois que c'est en train de changer. Il suffit d'écouter les radios maintenant. Dès que vous avez des tranches d'âge plutôt dédiées aux seniors, vous avez de la pub pour les appareils auditifs. Hein. On a ça en boucle maintenant. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle parce que dans notre pays, pendant trop longtemps, les hommes, puisque c'est eux qui sont majoritairement touchés par la presbyacousie, avaient beaucoup de difficultés à accepter les appareils. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la gaffe de Roselyne Bachelot à propos de Jacques Chirac, il y a une vingtaine d'années, qui avait osé dire que peut-être que Jacques avait un appareil auditif. On avait immédiatement contredit son affirmation, parce que, évidemment, c'était un signe extérieur de vieillesse, de déclin, donc on ne voulait pas l'entendre pour le président. Mais pour beaucoup d'hommes, c'était encore le cas. Heureusement, maintenant, on a des appareils qu'on ne voit plus, et qui sont en plus, pour la plupart, remboursés par la Sécurité sociale. Donc il faut y aller. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un déficit auditif, votre cerveau est moins stimulé. Donc cette réserve cognitive qui a besoin d'être entretenue en permanence pour se maintenir décline. C'est donc un facteur de risque, de déclin de la réserve cognitive. Et puis en plus, ne pas entendre, c'est un facteur de risque majeur de dépression. Quand on n'entend pas, on se déprime. Souvent, c'est contre-intuitif. Quand on demande aux gens si par malheur vous étiez frappé d'un déficit sensoriel, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être sourd ou aveugle en vieillissant ? Moi qui ai un peu l'expérience, je vous réponds tout de suite, il vaut mieux être aveugle. Parce que quand on est aveugle, on continue à communiquer. On ne voit plus, mais on se fait expliquer les choses et on communique. On reste entouré. Quand on est sourd, on comprend plus ce qui se passe. On voit, mais on ne comprend pas. C'est très pénible. Et c'est un facteur de risque majeur de dépression et de retrait social. Donc, si on a un déclin auditif, si madame vous dit, messieurs, mais ça peut aller dans l'autre sens, tu commences à devenir un peu dur de la feuille, bien sûr, il y a, on va dire, la surdité conjugale, qui est un grand classique dans la vie de couple. Mais au-delà de ça, il y a aussi, on peut effectivement avoir un déclin de ses fonctions auditives et on va se faire appareiller parce que, de la sorte, on va d'abord retarder l'apparition de la surdité. Mettre un appareil, ça prévient le déclin de l'audition. Mais en plus, on sera efficace pour prévenir Alzheimer et on va se maintenir en forme et relier aux autres. Trouble du sommeil, là aussi, le sommeil est un facteur de risque important par rapport à cette pathologie parce qu'on pense que quand on dort, eh bien, il se passe des tas de choses qui contribuent à entretenir la mémoire. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est important. Donc, si on dort mal, il faut essayer de réfléchir à la manière dont on dort et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Faut prendre son temps. Je sais qu'en vieillissant, vous avez beaucoup de gens qui prennent des petits comprimés pour dormir. Certains en ont vraiment besoin. Et je dis, il vaut mieux dormir avec un cachet que ne pas dormir du tout. Ça, c'est la première chose importante à entendre. Mais aussi, vous avez beaucoup de gens qui prennent un cachet juste par peur de ne pas dormir. Ils ont ritualisé leur endormissement autour du cachet. Si je n'ai pas le cacheton, je ne vais peut-être pas dormir. Alors qu'en réalité, ils n'ont peut-être pas besoin de se cacher réellement. Donc il faut réfléchir à ça, se faire un peu aider, mais surtout essayer d'avoir un sommeil harmonieux, de qualité, réparateur. Et ne pas hésiter à recourir à la sieste, qui aussi est une contribution efficace aux troubles du sommeil. Si on ne dort pas très bien dans la nuit, ce n'est pas un drame dès lors qu'on peut récupérer un petit peu dans la journée avec une petite sieste, pas trop longue. Isolement social, c'est également un facteur de risque important. Quand on est isolé, eh bien, on n'interagit plus, on ne stimule plus son cerveau et peut-être qu'on se déprime. Et en revanche, les facteurs protecteurs sont l'alimentation. On commence à observer un certain nombre d'aliments qui peut-être seraient efficaces pour prévenir la maladie d'Alzheimer. On a beaucoup parlé des oméga-3, qui sont ces huiles qu'on trouve dans les poissons des mers froides, hein, le saumon, le thon, les sardines, le hareng, mais aussi dans l'huile de colza. On peut mettre un peu d'huile tous les jours de colza avec le reste. Et puis l'activité physique, mentale, les traitements, etc. Donc pour conclure, ce que l'on sait, c'est que la prévention de la maladie d'Alzheimer, elle va passer par des traitements. Rémy Genton vous en a parlé et j'espère qu'on va avancer. Là, on a une lumière au fond du couloir avec ces nouvelles classes de traitements qui vont probablement être améliorées année après année. Il faudra également proposer aux gens une approche personnalisée et avoir une conscience préventive. Mais ce qui est important aussi, c'est de bien avoir en tête qu'en réalité, prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est tout simplement mettre en place toute une série de comportements vertueux pour bien vieillir et aimer ça. Merci de votre attention.